Donc Guillaume Heras, pour cette troisième partie, vous êtes notre invité. J'ai expliqué tout à l'heure en quelques mots la raison pour laquelle nous souhaitions vous avoir, entre autres, pour parler essentiellement de l'aglo, ce qui va être le cas. Petite réaction quand même sur les contre-regards de Michel. Tout à l'heure, vous sembliez avoir un regard, contre-regard peut-être, différent.
Oui, bonjour Jean-Claude, bonjour Michel, bonjour à tous. Oui, effectivement, je pense qu'il y a d'autres analyses possibles. Vous avez parlé de l'absence de Didier, mais enfin, on ne s'ingère pas dans une campagne narbonnaise quand on veut jouer collectif et quand on parle de rassemblement à l'agglomération. Donc, une autre analyse pourrait être que la non-présence, c'est aussi de la non-ingérence.
Oui. Et qu'il a d'autres chats à fouetter, agressants peut-être.
Bien sûr, voilà.
Voilà. Alors,
des possibilités d'alliance au Grand Narbonne ensuite.
Alors, je disais donc, vous êtes maire de Saint-Marcel, vous représentez. Donc, si vous êtes élu dans quelques semaines, il est évident, je ne suis pas un grand devin, que vous vous intéresserez, que vous continuerez, Guillaume Heras, à vous intéresser à l'agglomération. Et vous acceptez aujourd'hui d'en parler, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Une toute petite remarque d'abord, vous êtes sur une commune, Saint-Marcel, qui a des problèmes récurrents d'inondation. Est-ce que par rapport à l'agglomération, est-ce que vous avez des idées, éventuellement des projets, parce que lutter contre les inondations, c'est pas seulement un projet communal, c'est en général une action intercommunale.
Oui, bien sûr, et les agglomérations ont hérité de la compétence GEMAPI,
donc
c'est la gestion et la prévention des inondations et des milieux aquatiques. Et effectivement, il y a une obligation de vision large de bassin versant, de se réunir, de travailler ensemble pour aborder cette thématique. Et pour en revenir à Saint-Marcel, il y aura une révision du plan d'aménagement et de prévention des inondations qui va être voté et signé par la préfète et qui permettra de lancer une étude au niveau de Saint-Marcel et donc du fonctionnement des cours d'eau, notamment la Cesse, notamment Aude, notamment aussi le canal de Jonction, le canal du Midi et la Robine et Orbieu. Et maintenant que Cuxac et Salelle sont protégés, cela permettra de voir comment fonctionne et quelles seront les réponses à amener sur Saint-Marcel. Donc on parle d'investissements colossaux, on parle de besoins de scientifiques qui se penchent sereinement sur ces projets. Une étude va être lancée, 350 000 euros mis au budget. Donc voilà.
Rien que pour l'étude. Oui, ce qui laisse augurer de je ne sais combien de millions pour les travaux ultérieurs qui devraient suivre.
Enfin. Alors, l'étude va déboucher sur un diagnostic et des possibilités. Derrière se traiteront les financements en fonction des moyens et en fonction des biens et des personnes à protéger.
Voilà. Mais est-ce que, par exemple, dans le cadre justement des fameuses GEMAPI, il y a déjà des idées ou des pistes qui ont été avancées ? Parce que c'est tellement récurrent, ce problème, et tellement général. Il va au-delà de Saint-Marcel, bien sûr.
Il n'y a pas une solution. Il y a beaucoup de solutions. Il y a la protection immédiate sur le phénomène de crue et quand il arrive. Et donc, sur le territoire, les gens sont, organisés, les mairies, etc. Et donc ça passe par l'immédiateté avec les services publics, avec les pompiers, avec la préfecture, etc. Mais dans le traitement, bien sûr qu'il y a des solutions qui sont envisagées, traitées en cohérence avec le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, le SMAR. Il y a des moyens qui sont mis, il y a des entretiens de ripisylve, il y a des créations, surtout le bassin versant, de solutions d'arrêt de l'immédiateté de l'écoulement de l'eau. Donc voilà, oui, il y a des gens qui travaillent ardemment dessus, oui.
Et à première vue, qu'est-ce qui serait le mieux ? Il faudrait des digues ou des bassins de rétention, des choses comme ça ? Est-ce que l'étude a été assez loin pour avoir une idée ?
Mais là on parle de nombreux cours d'eau, de nombreux bassins versants et de rivières, et je ne peux pas vous parler de chaque...
Oui,
chaque approche a une solution, et il y a des gens qui travaillent dessus. Après, il faut être aussi conscient qu'il faut travailler sur le changement climatique, même si nous sommes à petite échelle, la protection, la gestion de l'environnement, la transition énergétique, voilà, à notre échelle est aussi importante. Mais il faut aussi prendre en compte que nous sommes sur un territoire qui a toujours été inondable, il y a toujours eu de l'eau.
On semble l'oublier.
Il faut vivre avec et savoir se mettre en sécurité et adopter les moyens, adopter les bonnes actions en cas d'inondation.
Oui, ce qu'on appelle la culture du risque maintenant, qui a du mal à passer dans les têtes d'ailleurs.
Non, je crois pas. Je crois qu'il y a toujours des récalcitrants. Il y a toujours une ou deux personnes qui ne comprennent pas que prendre la voiture et passer dans l'eau en inondation, c'est complètement fou parce qu'on ne voit pas la puissance des courants à ce moment-là et ce qu'il y a dans l'eau. Mais je vous parle moi
en tant que maire.
Tant que maire et en connaissance de cause, j'ai plutôt trouvé des concitoyens qui comprennent bien et qui savent comment gérer. Voilà. Et puis c'est un travail pédagogique de toute une année. On ne commence pas cette pédagogie le jour des inondations. On fait des réunions publiques, on informe, on recense toutes les personnes dans des habitations et dans des zones à risque, et ça permet de les prévenir, ça permet de les informer quand il y a des phénomènes d'inondation.
Voilà, mais j'insiste bien là-dessus, et vous le savez, c'est un phénomène qui touche bien au-delà d'une commune. Nous avions, il y a une semaine, à ce même micro, le maire d'une autre commune qui est sur la Cesse, monsieur Alain Fabre, maire de Bise-Minervois, qui nous disait un petit peu la même chose, quoi. Il est un peu désespéré en tant que maire de voir ce qui se produit et de, finalement, jusqu'ici, de ne pas réussir grand chose. Alors, on y reviendra plus tard lorsque l'agglo nouvelle version fonctionnera. Mais justement, Guillaume Heras, vous êtes d'abord déjà vice-président depuis un certain temps, l'environnement et je crois le personnel, les ressources humaines, c'est
gestion des déchets, ressources humaines et projets de territoire.
Et projets de territoire. Alors projets de territoire, justement, vous avez déjà baigné là-dedans presque 6 ans, ça vous donne un certain regard. Est-ce que ça vous permet d'avoir des idées ou des projets que peut-être vous soumettrez à l'Assemblée prochainement?
Alors Grande Narbonne 2030,
qui existe,
c'est
alors,
un projet de territoire que nous avons travaillé et voté à l'unanimité du Conseil communautaire. Voilà. Donc on a déjà une base de travail. L'agglomération de nouvelle version, on peut dire déjà qu'on va travailler sur les mêmes compétences de territoire, le cycle de l'eau, les déchets, le tourisme.
Ouais, c'est-à-dire que le Grand Narbonne a pratiquement trouvé une vitesse de croisière maintenant.
Oui, on a intégré des compétences nouvelles. Vous parliez de GEMAPI, la gestion des eaux pluviales. Mais on est sur des compétences de territoire, on est sur des compétences de projet. Et donc, vous parliez de mon intérêt pour l'agglomération. Oui, c'est un intérêt pour le territoire, bien sûr. Moi, j'ai grandi ici, comme vous. J'ai été... dans les écoles, et puis je suis parti 5-6 ans travailler à Paris, travailler à Madrid, travailler à Lisbonne, et puis j'ai pu me rendre compte de ce qui se passait ailleurs et de la richesse de notre territoire. Et donc oui, cette agglomération, elle sera nouvelle version dans sa gouvernance, et je crois que nous sommes nombreux à vouloir que cette gouvernance soit une gouvernance de rassemblement, une gouvernance d'union qui intègre l'intégralité des conseils communautaires. J'ai une certitude, c'est que les 79 conseillers communautaires qui vont être désignés par les électeurs, par les citoyens, s'ils sont conseillers communautaires, c'est parce qu'ils ont la même volonté d'avancer dans le territoire, le même amour pour ce territoire, le même amour pour la même passion pour développer.
Alors vous avez dit le mot, Guillaume Heras, gouvernance. Comme je le disais en tout début de l'émission, nous avons déjà eu un certain nombre de personnes impliquées, d'élus, qui ont, pour certains, fait des propositions précises. Et je parle par exemple à M. Malquier, qui lui carrément propose dans son programme officiel électoral, d'une part, de limiter à 12 vice-présidents, et d'autre part, une règle qu'il appelle des 3/3, où un tiers des vice-présidences serait confié à la ville-centre, un tiers aux communes du littoral et un tiers aux communes rurales. Est-ce que déjà cette répartition-là vous séduit ou vous n'êtes pas d'accord?
Alors, Je pense que le temps n'est pas venu de commenter ou pas ces propositions. Bertrand fait des propositions finalement dans le cadre de la campagne électorale sur Narbonne, et donc il a une vision de la gestion de l'agglomération. Ce dont je suis convaincu, c'est que les élus délégués narbonnais doivent être dans la gouvernance et travailler pour le territoire comme les élus du littoral, comme les élus des petites communes. Et là, il faut une union. On ne veut plus de clivage. On ne veut plus, de séparation sur des sujets. Donc il faut travailler sur ce qui nous rassemble. Des propositions sont émises. Bien, travaillons-les. Négocions. Travaillons sur ce qui nous rassemble. Donc moi j'ai envie de dire, quand chacun sera désigné, quand les élections municipales seront finies, ben, nous travaillerons ensemble, nous les étudierons, et chacun émettra des vœux de la façon dont il faut travailler. Voilà. Moi, sur la notion de vice-présidence et de nombre de vice-présidence, moi j'ai que moi à dire. Il faut des vice-présidents qui travaillent. Moi, je ne tolérerai plus que, comme le maire de Salais, le Bastion, il y ait des vice-présidents qui soient absents pendant tout le mandat. Voilà. Et donc, 12, 15 conseillers communautaires. Oui, c'est très clair. C'est très clair. On a besoin d'afficher au niveau de la population et de redonner cette confiance aux citoyens qui vont aller voter, qu'ils vont voter pour des élus qui travaillent. Voilà. Et ça, et des élus qui travaillent réunis, sans clivage. Pour le territoire.
Oui, ça, parce c'est la leçon douloureuse.
Moi, personnellement, je ne suis dans aucun parti politique. Je ne l'ai jamais été. Et je n'ai pas prévu à mon agenda de l'être plus tard. Bon. Même si je reconnais l'importance au niveau national pour les politiques nationales d'être groupé, dans des mouvements et des choses comme ça, mais c'est pas mon cas. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'il faut pouvoir tous se parler indépendamment parce que l'agglomération est un organe de projet, d'investissement, de développement. Et nos citoyens n'ont que faire de savoir si on parle ensemble ou pas et si on est clivé sur des sujets. Voilà ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Et donc, moi je dis à l'agglomération, travaillons, rassemblons, soyons unis. Et on a des bases pour faire ça. Et je le dis, l'amour du territoire, l'amour du développement, cette passion-là, elle nous réunit. Donc moi je suis optimiste et convaincu qu'on va travailler sur sur un avenir, sur un grand projet de territoire, Grande Narbonne 2030. On a déjà des bases. Vous étiez au conseil communautaire et vous avez vu que bon, sur l'agglo, ça a bossé quand même pendant 6 ans. On a de belles choses, mais on peut aller plus loin et faire mieux.
Et alors, pour justement, si je puis dire, la chasse au président qui ne travaille pas, est-ce que vous pensez que vous allez arriver à faire appliquer cette discipline-là, parce qu'on peut appeler ça une discipline?
Si on est groupé. Le groupe est fort et montre où il veut aller. Et donc, oui, pas de mandat, si pas de présence ou pas d'indemnité, si pas de présence. Voilà, ce sont des exemples qui marchent dans d'autres collectivités que je n'invente pas, hein, mais des recettes qu'il faut s'appliquer, effectivement.
Oui, parce que ça n'a quand même pas tout à fait été le cas dans le mandat précédent, et sans citer personne, l'exemple est effectivement flagrant. Alors, comme vous ne l'ignorez pas, Guillaume Heras, bon, cet agglo, d'une part, le Grand Narbonne, aujourd'hui, on peut dire, existe vraiment, a pris une certaine vitesse de croisière. D'un autre côté, pour l'avenir, on sait qu'il y a une nouvelle loi qui va permettre à certaines communes de prendre peut-être parfois certaines distances, une sorte peut-être de retour en arrière. En tout cas, ça peut, à première vue, sembler... Je ne sais quel est le nom de la loi.
C'est la loi engagement et proximité, voilà, qui redonne effectivement du pouvoir, entre guillemets, fait au maire, dans les établissements de coopération intercommunale
comme l'est le Grand Narbonne. Alors d'un côté, donc, elle prend corps, cet agglo, ce Grand Narbonne, et puis d'un autre côté, on sent qu'à un moment, il est possible d'avoir, ce que je dirais, c'est peut-être exagéré, mais des sortes de Brexit, des gens qui se retirent. Comment le voyez-vous, vous qui avez véritablement les deux pieds dedans?
Exactement ce que je viens de vous dire. L'union, le rassemblement, travailler, que chacun ait son importance dans cette agglomération et que chacun fasse sienne cette agglomération. Et pour ça, ce sont des recettes simples, de collectif, d'écoute, de travail en commun, de respect, d'énergie. Voilà, ce sont des choses donc qu'on n'invente pas. Et alors, une commune émettrait des doutes sur son intérêt à être dans l'agglomération. On se rassemble, on en parle. Quels sont les clivages? Quels sont les points de rassemblement? Quels sont les points d'union? Et moi, je trouve que l'agglomération a le moyen, justement, a les outils pour pouvoir travailler sur tout ça. Vous posez peut-être une autre question derrière sur ma vision du périmètre de l'agglomération. Moi, je pense qu'on a trouvé une bonne
un équilibre.
On a trouvé un équilibre. On a un territoire qui doit se rassembler à l'agglomération. Il faut aussi respecter chacun dans ses communes et les compétences communales. Voilà, ne pas, on en parlait. Ne pas s'ingérer dans les compétences communales. Encore une fois, mais sur l'ouverture. Sur nos voisins, on parle souvent de Lézignan, on parle souvent d'autres communautés de communes. Il faut bien sûr travailler avec elles, échanger avec elles. Mais je crois qu'on a un bon périmètre.
Alors, Guillaume Heras, on l'a ressenti, et surtout les électeurs le ressentent. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons avoir des gens comme vous qui parlent de cette agglomération. Parce qu'encore une fois, les gens vont certes désigner indirectement les futurs conseillers communautaires, mais souvent ils ne savent pas trop et ils ne savent toujours pas trop quelles sont les compétences de l'agglo. Alors vous êtes dans une qui est très importante, qui est l'environnement. On va conclure là-dessus, essayer de développer un exemple précis de ce que fait l'agglo aujourd'hui, que donc ne font plus les communes. Qu'est-ce que c'est que le secteur environnement qui a, je crois, un budget, ou le plus gros budget de l'agglo?
Alors, moi...
Qu'est-ce qui a été fait sur les 6 ans déjà, par exemple? Là, vous le savez fort bien.
J'ai travaillé pendant 6 ans sur... la problématique de gestion des déchets. Mais nous avons collectivement travaillé sur la transition énergétique, la croissance verte, c'est l'axe principal du projet de territoire, parce que la transition énergétique et la croissance verte, dedans on découle l'environnement, bien sûr, notre patrimoine local, mais aussi mondial, et on traite aussi de l'économie, de l'emploi, du logement, on réduit la précarité énergétique, on réduit au niveau social la facture d'électricité, la facture de l'énergie. La gestion des déchets, pour en parler plus particulièrement, c'est la collecte des ordures ménagères, c'est le tri sélectif. On est passé à l'extension des consignes de tri. Vous l'avez vu, on l'a fait en 2 fois. On a dès le début du mandat arrêter le conteneur bleu, le papier pour le ménager.
Vous avez simplifié
avec le jaune, on l'a simplifié. Et puis maintenant, aujourd'hui, on est à la simplification totale du geste de tri. C'est-à-dire que, tout simplement, et j'aime en parler parce que la pédagogie est importante, si c'est un emballage, vous ne le mettez plus dans le conteneur à ordures ménagères, vous le mettez dans le conteneur jaune.
Quel que soit l'emballage.
Quel que soit l'emballage, quel que soit le plastique, la cartonnette, etc. Et tous ces déchets ont une deuxième vie. Ils ne sont plus enfouis. Ils vont être retraités avec une économie derrière, avec une deuxième vie aux déchets. Donc forcément, on va moins consommer de matière pour créer des emballages, etc. Et voilà. Et donc, on est à l'agglomération satisfait, mais il faut aller encore plus loin, de voir que nos concitoyens ont répondu et qu'on est devenu maintenant une agglomération exemplaire, parce que on est passé au niveau supérieur, on est au niveau largement au-dessus des moyennes nationales et régionales sur le geste de tri sélectif.
Alors un mot sur Éco-Suez, qui est un établissement qui est passé peut-être un peu trop inaperçu dans l'opinion publique.
Alors, l'écopole, effectivement, le Grand Narbonne, par délégation de services publics, a souhaité, sur ce traitement des déchets, construire
un établissement
qui permet justement un outil industriel qui permet ce tri des déchets, ce retraitement, qui permet aussi de faire de la méthanisation, qui permet de récupérer le bois, d'avoir un atelier bois, d'avoir un atelier métal, Nous allons développer de la lombriculture, nous allons développer de l'entomoculture, c'est-à-dire à base de larves de mouches pour retraiter les déchets. Donc, et derrière ça, c'est plus qu'un traitement des déchets, c'est aussi de la recherche qui vient des scientifiques qui traitent sur des nouveaux procédés et donc d'autres entreprises qui sont dans ce domaine-là, des traitements des déchets. Donc au départ, à la base, on a des déchets et on essaie d'en faire une richesse pour le territoire. Donc transition énergétique, environnement, effectivement.
Voilà. Et là, l'agglo, c'est pour ça que je prends cet exemple parce qu'il me semble probant, c'est un investissement spécifique sur un projet spécifique que seul l'agglo pouvait faire, qu'une commune ne pouvait pas faire.
Tout à
fait. Et on conclura là-dessus.
Tout à fait.
Voilà. Eh bien, merci Guillaume Heras donc d'être venu clore cette liste du mois de février de nos quatre invités pour parler du Grand Narbonne. Pendant quelques séances maintenant de ce Radio Bar que nous éviterons les politiques engagées puisque nous entrons en plein dans la campagne, nous y reviendrons immanquablement après le 22 mars, où nous recevrons notamment Jacques Bascou, qui lui se retire, mais qui apportera probablement son expérience à ce moment-là. Et puis, il est très possible que nous retrouvions, par exemple, Guillaume Heras et d'autres à ce micro pour parler cette fois-ci de l'agglo et de la gouvernance qui se prépare. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci à vous. Au revoir.